Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écofolie fait sa rentrée également, tout comme les enfants de l'école et comme beaucoup de gens qui vont faire leur rentrée après de bonnes vacances. En tout cas, j'espère que ces gens-là auront bien récupéré parce que cette rentrée est à mettre dans les annales. Réforme du travail. Bernard Ferrand est toujours avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous ce qu'est une ordonnance parce que cette réforme du travail va passer par les ordonnances.
Alors une ordonnance, c'est très simplement que le gouvernement prend une décision qui va s'appliquer. On peut faire donc des ordonnances pour la sécurité, pour le travail, etc. Ce n'est pas une loi. Hein. Elle s'applique, mais vous pouvez l'attaquer devant le tribunal administratif. Tandis que la loi, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc les ordonnances sur la modification des codes du travail qui ont été décidées fin août et qui sont en application depuis le début du mois, en fait, sont susceptibles d'être attaquées tant qu'elles ne sont pas passées devant le Parlement. Mmh. Et elles vont passer dans le Parlement dans le courant du mois. Donc, fin du mois, elles seront passées devant le Parlement et oui. Adoptées certainement, puisque d'accord. Le président a une large majorité.
Oui. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Ça sera quand même admis.
A priori, politiquement, on peut dire d'une manière objective qu'il a une majorité, le président a une majorité, donc ça sera admis. Mais entre le moment de la publication des ordonnances en l'état, c'est en fait des projets, ça a été fait donc fin août, il faut le rappeler. Et là, dans tout ce mois, il va se passer des choses, bien sûr, des manifestations, des contre-propositions, éventuellement de nouvelles négociations. Donc les ordonnances vont, dans leur contenu, ça va évoluer. Un sens ou dans un autre, tout dans des précisions. Mais l'idée générale reste, c'était d'ailleurs ce qui était inscrit dans le programme du président élu.
Tout à fait. Ces manifestations que vont faire les gens, puisque là, ils arrivent de vacances et ils sont un petit peu devant le fait accompli, est-ce que ça peut avoir un rôle et est-ce que ça peut jouer oui ou non?
Nous sommes d'un pays démocratique. Nous sommes dans une émission de radio Écho en folie qui est en diffusion au mois de septembre. Donc, on va assister à des tas de mouvements. Donc, selon l'ampleur du mouvement, bien entendu que cela a des conséquences. On les mesurera au fil des jours. Et peut-être que lorsqu'on écoutera Écho en folie dans la dernière semaine de septembre, dans cette dernière diffusion du mois, peut-être qu'il se sera passé beaucoup de choses aussi. Mais dans le paysage actuel, tel que les ordonnances ont été appréciées par les différents organismes professionnels, on peut penser qu'il y aura des négociations. Mais là, dessus, peut-être que je me suis trompé.
Oui.
C'est une appréciation qui date du début du mois de septembre,
oui, tout
malgré
à fait.
Tout.
Tout à fait. Qu'est-ce qui va changer pour les ouvriers, mettons?
Ce qui va changer, il y a beaucoup de points dans les ordonnances qui sont importants. Important. Alors, ce qui va changer pour le salarié, premièrement, ça dépendra de la taille de l'entreprise. Parce qu'il y a vraiment des changements qui vont être en fonction de la taille. Par exemple, pour les entreprises de moins de 20 salariés ou les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, et peut-être que ça a été modifié, et que c'est peut-être porté à 50 ou à 40 ou à 10, le patron peut directement négocier avec le personnel en prenant un employé qui n'est pas nécessairement élu par le personnel et discuter des conditions de travail, de l'organisation, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, si vous voulez, de passer par un délégué syndical et il n'est pas strictement nécessaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de respecter un accord de branche. Donc on peut passer un accord d'entreprise. Alors, dans les petites, c'est très souple. Dans les plus grosses, c'est un peu moins souple. Hein. Dans la loi et dans les prévisions, il faut respecter la représentativité syndicale. Mais ce qui passe en premier, c'est l'accord dans l'entreprise. Au-dessus, ça devient au-dessus de l'accord de branche, en quelque sorte. Même ça, ça va bouger. Mais l'essentiel, c'est l'accord interne dans l'entreprise. Voilà ce qui va changer. Et ça, c'est important.
Mmh.
Derrière, il y a un deuxième point qui est très très important, qui est en modification, c'est le licenciement. En ce qui concerne le licenciement, donc pour faute, etc., eh bien, ou si le salarié qui a été licencié va en justice, gagne son procès en quelque sorte, etc., ce qu'on appelle les indemnités de licenciement changent dans la mesure où elles seront plafonnées. Et plafonnées, pour vous donner une idée telle que elles ont été proposées fin août, c'est 20 mois de salaire, l'équivalent de 20 mois de salaire, à 30 ans d'ancienneté, pour montrer le recul, en quelque sorte, qui a été fait là-dessus, mais qui était extrêmement demandé par le MEDEF, par l'organisation patronale. Là, il y a un recul très très important. En compensation, en fait, il y a une augmentation de l'indemnité de licenciement pour des durées courtes. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est licenciée et qui prouve que c'est abusif, en quelque sorte, si elle a 2 ans d'ancienneté, elle ne touchera pas 2 mois ou 3 mois d'indemnité, mais 6 mois d'office, et c'est dans l'ordonnance. On a des choses qui changent. Dernier point qui va changer dans la relation dans l'entreprise, c'est effectivement que le chef d'entreprise peut en fait organiser un référendum auprès de ses employés pour des mesures importantes. Mmh. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même significatif. Ensuite, pour les grandes entreprises, il y a unification des organismes auxquels le personnel participe. Par exemple, on va réunifier le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et sécurité. Oui, par exemple, ces 2 organes, il n'y en aura plus qu'un seul. C'était demandé là aussi par le MEDEF. Par les syndicats, beaucoup moins. Mais ceci concerne les entreprises au-dessus de 50 salariés pour l'instant.
D'accord. Est-ce que les syndicats vont avoir lieu encore ?
C'est une question qui va bien au-delà. Parce qu'on peut le voir d'une manière un peu dramatique, qui est la réalité. On assiste en France, mais ce n'est pas qu'en France, mais c'est très important en France, à une perte d'influence d'un syndicat, tout simplement. Beaucoup de personnes ne se syndiquent plus. Un syndicat, ce qui faisait sa force, c'est d'être effectivement le représentant de l'ensemble des salariés. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que dans des grandes entreprises, eh bien, le taux de syndicalisation est de 2%, 3%. C'est extrêmement bas. Après, et souvent, des salariés se plaignent de leur syndicat parce que leur syndicat n'a pas pris en compte leurs demandes ou ne les a pas défendues ou il y avait un problème personnel, ils ne sont pas venus. Eh oui, mais il faut qu'ils en aient les moyens, c'est la réponse. Il y a une disparition dans la réalité de l'adhésion syndicale. C'est commun à nos pays européens, mais c'est différent selon les pays. C'est très différent, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, c'est être syndiqué, ça fait partie du contrat quasiment, quoi.
D'accord.
Alors, évidemment, ce ne sont pas des syndicats, c'est moins divisé qu'en France, mais ce sont des syndicats plus de gestion partenariale avec l'entreprise, c'est sûr. Mais malgré tout, il y a la différence. Donc le poids du syndicat, c'est quand même lié au nombre de syndiqués.
Oui. Est-ce que la loi va prévoir sur l'ordonnance ou pas ? Quand il y aura problème juridique, est-ce qu'on va se référer à l'ordonnance ou on se référera à la loi ?
L'ordonnance va devenir une loi. Elle est proposée au Parlement et à partir de ce moment-là, ça devient une loi. Tant qu'elle n'est pas approuvée par le Parlement, n'importe qui peut l'attaquer devant le tribunal administratif. Et voilà la différence. D'accord. Donc elle est approuvée en principe ce mois-ci et devient donc une loi. Ce qui, d'ailleurs, peut entraîner au niveau de l'Assemblée nationale justement un débat qui peut être important, y compris dans la majorité présidentielle. À l'heure actuelle, on enregistre l'émission, a priori, le gouvernement n'aura pas de mal à faire passer les ordonnances au titre devant le Parlement, vu la taille, en fait, de sa majorité. Mais on peut supposer qu'il va se passer plein de choses, y compris à l'intérieur de la majorité, sur des points, certains points des ordonnances. C'est-à-dire, telles qu'elles sont énoncées fin août, eh bien, effectivement, il y aura certainement des modifications, négociations. Quelque part, on ouvre un peu une porte pour ceci ou pour cela. En particulier, on peut penser vers les syndicats. Alors là, on est dans la négociation, soyons clairs. Et c'est la démocratie, c'est normal.
Alors, on réforme donc ce travail, on réforme par des ordonnances. qu'est-ce qu'il en sera des agents territoriaux? Parce que jusqu'à là, les agents territoriaux ne sont pas licenciés. Est-ce qu'eux aussi vont passer dans cette ordonnance?
Alors, pour l'instant, on ne parle pas de tout ce qui est la fonction publique à proprement parler. Sauf ce qui est annoncé, mais ça c'est le côté budgétaire aussi, la suppression des emplois aidés. Mais le personnel territorial n'est pas concerné en l'état par ces ordonnances. Ça sera certainement une étape ultérieure telle qu'elle est annoncée dans le programme du président de la République, c'est-à-dire se repencher sur les réformes des collectivités territoriales. Il y a des bruits qui circulent. Hein. Si on lit la presse économique dans ce mois de septembre, on parle aussi d'un devenir sur les territoriaux. Mais apparemment, ce n'est pas envisagé pour l'instant, mais il y aura des conséquences à travers, un, la suppression des emplois aidés, donc une suppression qui va être assez radicale du point de vue budgétaire, et ensuite la diminution des dotations de l'État vis-à-vis des communes. Il suffit d'entendre tous les maires, de droite ou de gauche ou de n'importe où, ils sont tous mécontents. Ça se traduit d'ailleurs dans les élections sénatoriales qui se sont produites. Mais ils sont tous mécontents, et bien sûr, quand une mairie a moins d'argent, eh bien, il y aura moins d'emplois.
Mmh. Et qu'est-ce qu'il en est pour le travail déplacé?
Alors, pour le travail déplacé, on sort un peu du cadre des ordonnances, bien entendu.
Mais ça y rentre. Indirectement, peut-être, ça y rentre. Mais... parce que ce travail déplacé, il est bien dans un cadre aussi.
Ah, il est dans un cadre qui est une législation européenne. Voilà. Donc, on a vu le président de la République faire des démarches sur le travail déplacé. Il est monté au créneau, soyons honnêtes. Hein. Il est monté au créneau parce qu'il veut vraiment qu'il y ait une modification importante. Il est allé discuter, c'était au mois de juillet, par exemple. Il est allé discuter avec le chef de l'État hongrois. Il est allé avec le Polonais, etc. Il a fait le tour pour leur dire et ça suffit, il faut modifier ça. Évidemment, ces pays qui nous envoient des travailleurs qui sont des travailleurs déplacés, effectivement, freinent des quatre fers. C'est de bonne logique. Et ça se joue au niveau de l'Europe. Je pense honnêtement qu'il va y avoir des modifications, ne serait-ce qu'avec les négociations du Brexit. Là aussi, il y aura un impact. Mais je tiens à dire, et j'en profite un peu, pour dire quand même que ces pays nous envoient des travailleurs, mais à l'heure actuelle, ces pays, le développement, grâce à l'Europe, est énorme. Vous savez que le taux de chômage dans ces pays est tombé en dessous de 5%. Il est bien inférieur à celui de la France.
Et oui, mais s'ils les envoient ailleurs...
Oui, mais bien sûr, ils en envoient, mais ce n'est pas des centaines de milliers. Hein. Attention, c'est quelques milliers de travailleurs déplacés qui sortent de ces pays, mais ce n'est pas le million. Ce qui explique la baisse du chômage dans ces pays, c'est qu'effectivement, ils se développent, ils recadrent, ils profitent à plein de l'Europe et du marché commun. Il ne faut pas l'oublier, comme à l'époque l'Espagne, le Portugal avait profité, ça avait été spectaculaire. Eh bien, il faut le savoir, en Hongrie c'est spectaculaire, en Pologne c'est spectaculaire. Donc, c'est des pays qui, un jour, c'est eux qui vont avoir des travailleurs déplacés chez eux.
Alors, est-ce que justement, vous devancez un petit peu ma question, est-ce que la population française va être appelée à travailler ailleurs?
Entre nous soit dit, est-ce que c'est déjà pas le cas?
Ah, je ne sais pas, je pose la question.
Moi, par exemple, quand je vois autour de moi, dans le Volvestre, le nombre de familles qui ont un enfant... qui est à Londres, qui est aux Pays-Bas, qui était parti aux États-Unis, qui travaille, qui est à Singapour, qui est aux Émirats, c'est impressionnant. C'est absolument impressionnant. La planète devient de plus en plus petite, c'est à proximité. On vous annonce, ah ben le fils, ben oui, il a un contrat, il est parti pour l'entreprise, il est à Singapour ou à Hanoï même, j'ai appris récemment, là, dans le Volvestre, une famille qui a le fils qui est parti, il travaille pour une entreprise française, il s'en va dans l'usine, il est cadre dans une usine là-bas, il va faire un peu de carrière, tout le monde en est content et fier. Je veux dire, ça bouge dans tous les sens.
Oui, mais est-ce que, moi je voudrais qu'on parle aussi de ces ouvriers qui sont au SMIC, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire?
Eh bien, on est dans un monde où le travail disparaît sur la forme traditionnelle. Tout est délocalisable, tout peut être presque fait à domicile. Hein, là, on enregistre au local de Radio Galaxie, mais prochainement, on ne le fera peut-être même plus. les moyens technologiques sont énormes, le travail change de nature. Et ceux qui sont dans cette vague, eh bien, ils sont portés par cette vague. Ceux qui ne le sont pas, par absence de formation, par pas de, disons, pas eu l'opportunité, etc., eh bien, ils sont renvoyés à des tâches un peu d'exécution. Mmh. Et ce monde-là, est-ce qu'il ne va pas disparaître aussi?
Oui.
J'irai un peu plus loin.
Oui.
Par exemple, nous, dans le Vaudès, il y a beaucoup d'emplois qui sont liés, par exemple, au service des personnes, etc. Moi, ce qui m'impressionne dans le service des personnes, par exemple, dans les maisons de retraite, prochainement, c'est en cours d'expérimentation, beaucoup de tâches qui sont faites par une personne, par exemple, aider une personne handicapée, fatiguée, etc., à se lever, ben, ça sera fait par une machine. Voilà.
Décidément, vous avancez toutes mes questions. Justement, la robotisation et le travail, c'est pour quand?
Eh bien, pour beaucoup d'économistes dont je fais partie, le vrai problème, c'est la diminution de la quantité de travail dans notre monde. Et qu'en fait, le vrai problème, ça serait de revenir aux 35 heures, aux 30 heures, aux 25 heures, à 20 heures par semaine. Il y a de moins en moins de travail.
Et oui, mais puisqu'on enlève les contrats aidés, les CDI vont tendre à être des CDD. Comment on va se sortir de tout ça?
Les CDI, pour l'instant, on n'en parle pas, même à la limite, ils sont renforcés. Ce qu'on rend précaire, ce sont les CDD. C'est un petit peu dans l'optique des ordonnances, entre nous soit dit. Le CDI, mais il y en aura de moins en moins, bien entendu. Mais c'est un bunker, quoi. On ne doit pas y toucher. C'est la même chose en Allemagne, d'ailleurs, paradoxalement, ou aux Pays-Bas. Les CDI, c'est bouclé. Il y a des règles précises, même en Allemagne, où un CDD qui dure devient automatiquement un CDI. Ce qu'en France, justement, le patronat ne veut pas accepter.
C'était comme ça avant.
C'était une pratique. Mais oui. Tout ça, bouh, ça s'évapore.
D'accord.
Ça s'évapore. Comme dit l'autre, on met fin au contrat, donc c'est fini avant l'échéance.
Oui.
Mais ça, c'est des relations aussi inter-entreprises. Et puis, c'est le poids syndical. C'est le poids syndical. Si dans une entreprise, 50% du personnel serait syndiqué, je vous assure que vraiment, les relations sociales ne seraient pas de la même nature. Les petites magouilles n'auraient pas lieu. Parce que derrière, il y a certains gestionnaires d'entreprise, ils ne voient que leur propre profit à court terme. Et ils oublient que ce sont des hommes. Ça arrive, bien sûr, malheureusement.
Oui. L'avenir du travail, qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour... pas conclure de suite, mais qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ben, l'avenir du travail, on a une vision qui est pessimiste ou optimiste, selon les cas. C'est-à-dire que la quantité de tâches, ce qui a donné lieu au travail, bien diminue. Il va diminuer par l'évolution de la technologie.
Parce que ces contrats aidés qu'il y avait jusqu'à là permettaient à une personne qui arrivait en fin de carrière ou permettaient à quelqu'un qui était au début de sa carrière de se faire la main, de se faire les dents au travail, des fois d'être embauché dans la continuité ou de rebondir sur autre chose. Et là, que va devenir cette masse salariale qui était mobile?
Les contrats aidés représentent actuellement en France 350 000 à peu près. C'était le chiffre, je crois, au mois de juillet. Et ils rentrent en suppression dans le programme du président de la République et du Premier ministre. Et ça sera surtout en application pour 2018.
Donc là, le chômage va augmenter.
Là, on quitte les ordonnances, on passe sur le budget de l'État pour 2018. Parce qu'il y a d'autres modifications liées au niveau budgétaire, sur lesquelles je voudrais revenir d'ailleurs, dans le cadre du travail. Alors, les contrats aidés, c'était des contrats à vocation sociale, comme vous l'avez expliqué très bien. C'est-à-dire, il faut aider des personnes qui sont en marge, qui ont... Voilà, c'est une manière de réinsérer quelqu'un et de lui redonner une chance. C'était donc les collectivités locales qui ont beaucoup d'occasions de travaux à faire, de possibilités d'aider les gens
localement. Oui,
mais
c'était aussi leur donner l'occasion de se former à quelque chose.
Eh bien, de se former.
Ou de changer de voie parce qu'ils, peut-être là, ils voyaient que ce n'était pas leur voie.
Eh bien, oui.
Et donc, ces formations, tout ça, ça va être du manque à gagner économiquement. Il n'y aura plus autant de centres de formation. Comment on va faire? Chômage en hausse.
Attention là-dessus, les contrats aidés sont supprimés. Mais, de l'autre côté, ce qui est indiqué, ce qui est en voie aussi, c'est une réforme de l'assurance chômage qui est dans les tuyaux. dont on parle d'ailleurs déjà en ce mois de septembre. Et dans cette réforme de l'assurance chômage, ce qui est prévu, c'est effectivement un renforcement du droit à la formation et un développement de la formation. Et là-dessus, c'était dans le programme du président, on peut s'attendre à ce que ça se mette en place. Mais c'est pour 2018, ça a été rappelé il y a quelques jours par le Premier ministre.
2018, c'est demain. Est-ce que tout ça va accélérer le salaire unique ?
Je ne pense pas. Le salaire unique, on ne sait pas où il est, parce qu'aujourd'hui, le principal, c'est les bénéfices.
Pourtant, il est déjà mis en place. Il y a des régions qui l'expérimentent.
Je ne vois... Ça intéresse, c'est les gens qui sont rémunérés. Personnellement, je ne vois pas l'impact du salaire unique par rapport à l'importance du travail. Mais peut-être y en a-t-il un que j'ignore.
Parce que si tous ces contrats aidés vont être au chômage, c'est normal. Mmh. Il faut bien quand même qu'ils arrivent à quelque chose. Donc, s'ils sont au chômage, on risque de dire « Ah, mais c'est pas plus mal de leur mettre un salaire unique. »
On le verra. Je crois que ça peut donner lieu à une véritable émission d'Écho en folie sur le problème du travail et des salaires dans le cadre de l'aide sociale ou de la remise du pied à l'étrier, comme on disait autrefois.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il en sera du personnel hospitalier avec ces nouvelles ordonnances ?
Alors, pour l'instant, le personnel hospitalier n'est pas concerné directement, sauf dans les règles du contrat de travail. Là, il y a une modification des règles du contrat de travail, modification de la représentation au niveau d'entreprise. Et l'unification comité d'entreprise, comité d'hygiène et sécurité aura des conséquences importantes. Il faut bien se rendre compte. Mais de l'autre côté aussi, il y a les réformes des règles d'indemnisation en cas de licenciement aussi, qui peuvent toucher du personnel hospitalier.
Le monde de la banque, est-ce qu'il va être touché ?
Pareil. Ça concerne toutes les entreprises privées. Toutes. Alors, en sachant que les banques, ce sont très grandes entreprises.
Oui.
Donc, elles sont concernées que pour les modifications qui concernent les grandes entreprises.
Oui.
Pour l'instant.
Quel rôle vont avoir les multinationales dans ces ordonnances ?
Voilà quelque chose d'intéressant. Très intéressant qui est modifié au niveau des ordonnances du gouvernement. En cas de difficulté d'une entreprise, pour le plan social, il y a des règles précises dans l'ancien Code du travail. Et en particulier, le tribunal du commerce peut apprécier la situation de l'entreprise, si elle est filiale d'un groupe, en regardant la situation du groupe dans sa globalité. C'est-à-dire, vous avez une filiale en France qui a des difficultés, vous voulez la mettre en faillite, vous voulez liquider du personnel, d'accord ? Plan de licenciement. Et on regardait comment ça se porte au Luxembourg et qu'est-ce que vous avez fait au Portugal. On pouvait voir et là-dessus, donc, contrebalancer ce qui était annoncé. Eh bien, dans la loi qui va être votée, l'ordonnance qui va devenir la loi, eh bien, le tribunal de commerce n'aura pas ce droit. C'est-à-dire qu'on évaluera sur le territoire national la situation de cette entreprise, même si c'est la filiale d'un groupe international qui fait des bénéfices colossaux.
Donc, ce qui va encore plus grossir le chômage. On est bien d'accord.
Grossir le chômage, concrètement, je ne peux pas répondre. Mais ce qui va modifier les choses, c'est les indemnités du plan de licenciement.
Tout à fait.
Parce que si vous dites le plan de licenciement s'étend et tend, en regardant, parce que vous regardez votre filiale en Allemagne, elle est extrêmement bénéficiaire. Donc, vous pouvez payer. C'est ça la nuance. Et ça, c'est important. Très important.
D'accord. Ça,
c'est quand même l'idée d'une simplification derrière. Pour les entreprises, vous n'êtes plus embêté. Vous voulez fermer la filiale, vous faites en sorte qu'elle soit à la rue. Et ça va, du point de vue comptable, pour une multinationale, c'est très facile. Et vous la mettez en faillite et on n'en parle plus.
Bien, notre émission va tirer à sa fin. Est-ce que ces ordonnances qui vont passer là et qui sont en passe d'être mises dans la loi, est-ce que ça sera la réforme du travail ? Qu'est-ce que ça va être en fait ?
Eh bien, c'est très simple. Quand, pour la plupart des personnes qui traitent un peu et qui s'intéressent au sujet, c'est la disparition à terme du travail salarié. Voilà ce qu'on peut dire. On parle beaucoup de toutes ces modifications. Mais moi, il y en a une dont on n'a pas parlé, mais qui n'est pas dans les ordonnances, bien entendu, mais qui va être entériné justement dans le budget, dans le projet de budget 2018, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Les plafonds de recettes pour les auto-entrepreneurs, vous savez que selon qu'ils font de l'activité ou du commerce, ils ont deux plafonds différents, sont totalement augmentés d'une manière doublée, en quelque sorte, dans le projet. Et donc, il devient extrêmement commode. Je n'embauche pas quelqu'un, je passe un contrat avec quelqu'un qui est auto-entrepreneur. Et ça se développe de partout. Mm-hmm. Ouais. Tout, on voit tous ces petits travaux ambulants, rapides, pour des multinationales. Je livre la nourriture, je livre des pizzas, je livre ceci, je fais cela. J'interviens. Et on fait appel à des auto-entrepreneurs. Mm-hmm. C'est-à-dire, on ne gère plus du personnel. On n'a pas à indemniser du personnel. Il répond à la demande et quand il n'y a pas de boulot, eh bien, il reste chez lui, il se débrouille. Et ça, c'est vraiment, vraiment une précarisation d'une partie des gens qui doivent travailler pour avoir des revenus.
D'accord.
Parce qu'il n'y en a qu'une partie des gens qui doivent travailler pour avoir des revenus. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une partie de la population qui n'a pas besoin de travailler. Les revenus, ce sont ses placements, ses biens immobiliers.
Oui.
C'est énorme. Mmh. Énorme comme idée.
Bien, ben merci Bernard d'avoir fait un petit tour sur ces ordonnances qui sont en passe d'être mises en exécution. On se retrouvera le mois prochain, mais on reviendra quand même sur ce sujet parce qu'il y a plein justement de...
Ah ben c'est une question de fond. D'abord, la disparition du droit du travail, oui. En quelque sorte. Sa modification, certains parlent de disparition, sa modification extrêmement importante, en l'occurrence. Mais bon, simplifier n'est pas une mauvaise idée non plus. Hein, parce que plus c'est complexe, moins on comprend. Comme
oui,
on dit.
Tout à fait.
Ça revient assez clair là-dessus. Mais ce qui est le point, à mon sens, le plus important, et qui mérite vraiment d'en débattre et de retravailler un peu le sujet, c'est cette disparition annoncée du travail salarié. Et on le voit dans certains pays, ça devient énorme. Et donc en France, on fera pareil. Mm-hmm. On développe et on revient en arrière dans notre histoire.
À bientôt.
À bientôt et que l'économie soit toujours en folie et que tout le monde soit à écouter les explications sur ces ordonnances, sur la loi et pense qu'il est concerné.